On est de retour maintenant pour parler avec Luc Ouellet qui est au bout du fil. Salut Luc!
Salut Eric!
Luc, on te reçoit aujourd'hui parce que ça fait 25 ans, jour pour jour, que les Nordiques étaient vendus au Colorado. Puis toi, à l'époque, tu as joué un rôle là-dedans parce que tu étais l'assistant de Marcel Aubu.
Oui, j'étais l'adjoint de Marcel Aubu et j'avais été engagé, Eric, 2 ans auparavant comme responsable du comité de survie. Puis ce comité-là, ben ça s'est transformé en comité de vente. Alors c'est effectivement des souvenirs très douloureux parce que le 25, on était à l'hôtel Le Concorde et on annonçait la vente des Nordiques. Le matin, on avait rencontré les employés, puis c'était un onde de choc. C'était terrible pour eux, là, les employés, parce qu'il faut pas oublier que ce club-là vivait sur quelques années de sursis à cause du travail exceptionnel des employés. Quand on parle de vente de publicité, on était non seulement le meilleur au Canada, mais un des meilleurs dans la Ligue nationale. Alors, les gens travaillaient, ça vendait des billets, ça vendait des promotions, alors ça travaillait très fort.
Il était où le problème d'abord? Il était où le problème si on était le premier au niveau de la vente de pubs, puis si on était capable, on avait quand même des fans, là, on a encore beaucoup de fans des Nordiques à Québec. Comment ça se fait qu'on n'a pas été capable de maintenir le club?
Ben, quand tu analyses au niveau financier, si on revient à l'époque, les Nordiques avaient un payroll de 16 millions de dollars. Et en 1995, en janvier 95, après un lockout, les joueurs et la Ligue nationale s'entendent pour pas qu'il y ait de plafond salarial. Alors, je disais que ces années-là, les Nordiques ne perdaient pas d'argent. Le problème est survenu en 95 quand l'analyse financière s'est faite. C'est que si les propriétaires n'avaient pas un nouvel amphithéâtre pour permettre d'avoir des revenus supplémentaires ou un moyen, on se rappelle à l'époque de la fameuse loterie qui était proposée aussi d'avoir une loterie pour aider les Nordiques. Le marché étant tellement petit et les dépenses augmentaient d'année après année. Donc, ça aurait coûté sur les 3 années qui suivaient 57 millions l'analyse qui avait été faite. Alors, 57 millions de pertes. Et c'est là que les propriétaires ont décidé d'entreprendre des démarches auprès des gouvernements, à l'époque M. Parizeau et Jean-Paul Lallier, la Ville de Québec, pour leur dire, écoutez, on a un problème, on est prêt à pas faire d'argent, mais on n'est pas prêt à perdre 57 millions dans les 3 prochaines années, compte tenu de l'augmentation des dépenses qui étaient faramineuses, les frais de transport, les joueurs, et à chaque année, la masse salariale. Les 3 années qui ont suivi, la masse salariale avait augmenté de 118% si on regarde ce qui s'est produit à l'époque. Alors, c'était presque impossible pour des propriétaires de garder un club sans avoir l'opportunité d'avoir de l'aide à cette époque-là. On l'avait vu dans les autres petits marchés, Eric.
Il y a quelque chose que je comprends pas, Luc, c'est que on était à une époque où on l'avait, notre club de la Ligue nationale. On avait des Québécois qui étaient là-dedans, qui voulaient garder le club ici. On voulait, puis ils sont intervenus pour faire construire un nouvel amphithéâtre. Puis on a un maire à Québec, Jean-Paul Lallier, puis on a un premier ministre du Québec, Jacques Parizeau. Puis l'amphithéâtre se fait pas avec des capitaux publics. On se ramasse des années plus tard. Là, on a plus de clubs, pas de garantie qu'ils vont revenir. Puis là, le maire Labombe puis Jean Charest, eux autres, ils trouvent le 400 millions puis ils nous construisent un amphithéâtre alors qu'on n'a plus de clubs. Il y a quelque chose qui marche pas. Là. Il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas donné quand on avait le club puis on l'a donné quand on n'a pas de club puis qu'on n'a pas de possibilité même de le revoir?
Je me rappelle des discussions qu'on avait à l'époque, moi et Jean Royer, qui était le chef de cabinet de M. Parizeau, qui était la personne avec qui je négociais. Et je lui expliquais la vitrine exceptionnel d'un club de hockey pour une province, surtout pour une province qui voulait faire un référendum. Et les discussions avec M. Parizeau, M. Royer et leur groupe, c'est eux autres, ils invoquaient l'argument à l'époque là qu'on fermait des lits d'hôpitaux, puis qu'on avait besoin d'argent, puis que la période financière était pas extraordinaire. Donc, on disait, politiquement, comment on est capable de vendre aux gens qu'on va subventionner un amphithéâtre, puis un club de hockey qui paye des salaires faramineux Et c'est pour ça qu'Aubu s'est battu longtemps pour avoir un plafond salarial, parce que sans plafond salarial, il n'y a pas un gouvernement qui voulait aider. Mais on se ramasse effectivement aujourd'hui avec un amphithéâtre flambant neuf, très beau, de qualité de la Ligue nationale, mais il n'y a personne qui joue dedans. Et c'est très triste aujourd'hui quand on pense à ça, parce que je vais te raconter quelque chose, Éric, qui est bien importante. Monsieur Bettman, à l'époque, nous dit, si vous voulez que j'accepte la transaction des Nordiques, que je vous laisse partir, vous allez me devoir me faire un document pour me montrer que le marché n'est pas capable présentement de supporter une franchise de la Ligue nationale dans le contexte actuel. Et j'avais préparé ça à l'époque avec des collègues, dont Luc Bastien, et une firme comptable pour préparer ça. Et malheureusement, Éric, tous les choses au niveau du nombre de sièges sociaux, de revenus par capita, de dollars pour le loisir, etc., etc., on était tellement beau qu'on était obligé de mettre de la couleur dans le bas des colonnes pour que ça apparaisse.
Hey boy, parce que on n'existait pas.
On n'existait pas. Au niveau des revenus puis de la capacité de payer des gens pour un club de la Ligue nationale. Donc, l'augmentation des billets qui s'en venaient, ces choses-là, c'était presque impossible. Et ça me sautait aux yeux. Ce que ça me fait dire, tant et aussi longtemps que Gary Bettman va être président de la Ligue nationale, je serais très surpris qu'on soit capable de renverser la vapeur en lui disant on a un marché maintenant beaucoup plus dynamique, beaucoup plus actif, parce que peu importe ce qu'on dit, le marché a pas tellement changé à Québec. Il y a autant de fonctionnaires, sinon plus. Et on n'est pas dans une économie où les gens sont prêts à payer 300 $ pour participer à un match de hockey, pour aller voir un match de hockey. Alors, les petits marchés comme Winnipeg à l'époque, Phoenix et compagnie, sont tous passés par là. Winnipeg a eu la chance d'avoir un club à cause du nombre de sièges sociaux puis d'un engouement extraordinaire de la population pour l'achat des billets de saison, parce que c'est, comme tu le mentionnes, c'est triste. On avait les meilleurs fans dans la Ligue nationale. Les partisans étaient au rendez-vous, puis ils supportaient leur équipe. Malheureusement, la conjoncture économique puis l'absence de plafond salarial a été un argument pour les gouvernements, tant municipal que provincial, de nous dire il n'est pas question qu'on mette de l'argent là-dedans.
Quand on regarde ça aujourd'hui, on se dit, puis on regarde des marchés qui n'ont rien à voir avec le hockey, où les petits jeunes là-bas n'ont jamais mis une paire de patins dans le pied, puis n'ont aucune idée, qu'ils vont voir un match de hockey, puis ne comprennent même pas c'est quoi le sport, puis qu'on voit tous les problèmes que la Ligue nationale a dans certains marchés aux États-Unis. Veux pas, à sa face même, c'est une aberration que Québec n'ait pas une équipe. Là.
C'est certain que c'est difficile de regarder le marché avec des fans extraordinaires comme la ville de Québec, qu'on n'ait pas de club. En même temps, Éric, faut être honnête, ça va prendre un propriétaire qui a, excusez l'expression, les poches profondes, qui va utiliser le club de hockey à Québec comme un véhicule, un levier pour ses autres plateformes ou ses autres opérations.
Mais c'était ça, parce que Pierre-Carl Péladeau, non, c'est pas justement de la convergence, là. C'était pas justement d'avoir tous ces médias en arrière de tout ça, plus son Vidéotron, plus le Centre.
Eh oui, c'était ça. Puis qu'est-ce qu'on nous a servi quand on a regardé le marché? Souviens-toi de la réponse. Là, c'est la faiblesse du dollar canadien qui avait fait reculer à l'époque, puis qui rendait plus fragile Vidéotron pour devenir un éligible pour avoir un club de la Ligue nationale. La situation de dollars n'est pas améliorée, au contraire. Alors, si tu n'as pas de propriétaire, si tu calcules la ligne d'en bas avec les opérations, salaires et revenus d'un club de la Ligue nationale à Québec, c'est impossible de faire de l'argent. Donc, faut que tu aies quelqu'un qui utilise ça comme un véhicule promotionnel pour ses autres plateformes, ouais. Puis avec des droits de télévision aujourd'hui qui sont en dehors des petits marchés, qui sont signés par des géants et qui permettent d'aller chercher des revenus supplémentaires. Si tu n'as pas ce genre d'opérateur-là, ben je m'excuse, tu n'auras jamais un club compétitif sur la patinoire. Donc, ça rend les choses très difficiles pour le retour d'un club de la Ligue nationale à Québec.
Moi là, Luc, je suis pas un partisan du tout des fonds publics pour des des affaires comme celle-là, OK? Mais en même temps, je me dis, si on a de l'argent, si on a 60 millions à donner à Robert Lepage pour une culture très élitiste, si on a des dizaines et des dizaines de millions à donner pour les violons du roi au Palais Montcalm, pourquoi on n'avait pas d'argent pour le peuple? Parce que ça parle de tous les éléments culturels élitistes, là. Puis y a pas les Nordiques là, c'est multiplié par ton numéro de téléphone, l'impact puis l'importance que ça a au cœur des Québécois là.
Pis, ouvrir un match de la Ligue nationale avec pour le touriste en entrée le Château Frontenac puis la ville de Québec puis ça a pas de prix au niveau de vitrine publicitaire dans le monde entier avec tout ce qu'on voit à l'heure actuelle. Mais ils ont pris une décision à l'époque la culture, Monsieur Lallier était plus culture que hockey. Lui, il a pris une décision de ne pas faire équipe avec nous pour aller voir M. Parizeau pour nous aider à avoir de l'aide des paliers de gouvernement. Mais effectivement, si tu le prends dans l'aspect de publicité du tourisme, on n'arrivera jamais avec aucun programme qui peut être aussi payant qu'une vitrine technologique comme un club de hockey dans la Ligue nationale.
Surtout que le gilet des Nordiques, c'est pas celui qui est encore le plus vendu aujourd'hui par la Ligue nationale.
Ah, c'est très populaire. Écoute, c'est des fans extraordinaires. On avait toutes les capacités, mais sans aide gouvernementale pour trouver une stratégie. Puis ce que demandait Marcel Aubu à l'époque, c'était pas... Il était prêt à dire « Aidez-nous en attendant l'arrivée du cap salarial, parce qu'avec un cap salarial, les revenus vont augmenter, parce qu'on va être capable d'augmenter les droits de télévision, ce qui s'est fait à l'heure actuelle. Aujourd'hui, les droits de télévision, en comparé de 1995, ont été multipliés par, je pense, 110%. Alors... Mais il disait, si vous ne nous aidez pas en attendant, on ne peut pas accepter de perdre 57 millions dans les trois prochaines années sans aucune chance de survivre à plus long terme.
Parle-moi de Marcel Aubu, parce que ça a été pour... Oui. Tu sais, il a été une personnalité qui en a mené très large à Québec, très populaire, très médiatisé. Puis du jour au lendemain, il est devenu un paria puis un traître aux yeux de plusieurs de nos auditeurs. Comment il a vécu ça? Rappelle-toi cette journée-là puis ces moments-là. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé?
Éric, je suis au Colisée de Québec avec le chauffeur de M. Aubu. Je suis assis en arrière dans la vanne. M. Aubu est à ma droite. Et on est dans le Colisée. Il embarque dans la vanne, dans la petite vanne qui nous amène au Concorde. Et il craque, il pleure, il est inconsolable. Et j'ai été obligé de dire, écoutez, M. Aubu, un job à faire, on a une conférence de presse tout à l'heure. Faut pas oublier que la présidence des Nordiques lui apportait. Je peux te dire une chose. Ceux qui disent que Marcel Aubu voulait vendre les Nordiques, là, c'est le dernier qui voulait vendre. Ça, là, j'ai été un témoin privilégié de ça. Puis c'est certain, il faisait tout. Oublie pas, il y avait une visibilité, il y avait une notoriété. Il pouvait appeler n'importe quel politicien, le rappelant dedans de 10 minutes. Il laissait tomber tout ça pour une transaction était pas souhaitable pour lui à l'époque. On parle de d'argent toujours, puis on dit c'est un bon coup financier, mais ça procure jamais ce qu'il avait déjà. Et en plus de ça, financièrement, il était déjà très à l'aise, alors ça faisait pas de différence. Mais du jour au lendemain, il y a des gens qui ont perçu ça comme une trahison. Puis malheureusement, et aujourd'hui, il hésite à sortir pour expliquer justement ces choses-là. Puis, c'est une époque très difficile.
Ça fait 25 ans, puis ça n'a pas encore la plaie, pas encore cicatrisée. Là. C'est ça que je comprends.
Je peux vous dire une chose. Là. Je rentrais au Nordique de Québec à 7h moins quart le matin, puis Marcel Aubu était dans son bureau, puis il me regardait comme si j'étais en retard. tu sais, à 7h moins quart le matin, parce que lui, il était là depuis 5h30, puis il travaillait, puis les employés, ça travaillait tous. On a vécu sur du temps emprunté à cause de la qualité de l'équipe de vente puis de promotion qui faisait des pieds puis des mains. Comme on se remémorait ce matin, il y avait juste le dessous des poubelles qui n'étaient pas commanditées dans l'ancien Colisée. C'est incroyable.
Je veux terminer en te parlant de quelque chose, parce que j'ai un auditeur qui vient de me l'écrire. Là, il me dit, si les Nordiques étaient restés à Québec, là, le référendum aurait passé, le oui aurait gagné. Ça a été l'erreur qui a coulé Parizeau. Puis je sais que Guy Bertrand pense ça aussi, puis il y a bien des indépendantistes qui pensent ça. Toi, je pense que tu n'as jamais été un séparatiste, Luc. Mais,
non.
Mais penses-tu qu'effectivement, ça aurait pu jouer un rôle?
Bien, si on regarde, on me dit que le référendum dans la région de Québec a été perdu.
Ils disent toujours que ça a été perdu.
Par 47 000 voix. si on pense au nombre d'amateurs de hockey qui étaient sûrement plus élevés que ça, il y a peut-être des gens qui ont voulu envoyer un signal au gouvernement. Ouais. Mais ça, on le saura jamais. Chose certaine, quand tu veux devenir un pays, puis tu veux passer un référendum, une vitrine comme un club de hockey dans la Ligue nationale aurait été un atout exceptionnel. Et ça aurait été intéressant de voir les Nordiques rester à Québec, puis le gouvernement, peut-être que le résultat du référendum aurait été différent.
On n'aurait peut-être pas été les francophones qui ont voté le moins oui en 95, ça avait été si les Nordiques étaient encore en ville. En tout cas, c'est toujours intéressant de jaser, Luc. On n'a pas parlé beaucoup de politique, on a parlé plus de sport, mais quand même, c'est un jour important aujourd'hui, puis t'as joué un rôle majeur là-dedans, puis c'est intéressant de t'entendre parler. Merci de nous avoir parlé des Nordiques.
Merci à vous. Bye-bye.